bienvenue, c'est la bande originale de votre été jusqu'à midi avec Leïla Kadrou-Boudadi, Daniel Morin, Albert Algou et l'humeur de Guillaume Guiz. Au programme ce matin, Rachida Brakni, la bande originale de Mireille Dumas et en live, Julien Doré, le meilleur de la bande originale. C'est parti! Merci mesdemoiselles de venir à ce micro pour nous présenter de sas en sas. J'espère que vous allez bien, Rachida.
Mais ça va très bien.
Fabienne, ravie de vous accueillir. Je pense que c'est la première fois que nous commettons quelque chose ensemble.
Oui,
et j'en suis ravie,
oui.
Tellement je vous
moi
admire. Malheureusement, ce n'est pas moi qui vais d'abord parler de votre excellent film. C'est le Maréchal Ganache. Et j'ai peur, Maréchal, que vous n'ayez pas très bien compris pourquoi Fabienne et Rachida sont là.
Vous trompez complètement. Détrompez-vous. Parce qu'une fois de plus, vous faites bien de me poser la question essentielle, question à laquelle les ectoplasmes dont l'inconsistance n'a d'égal que l'incuriosité et dont vous êtes hélas flanqué sont totalement incapables de répondre. Je ne parle pas de cette lopette de Morin qui n'est même pas foutue d'être ici. Donc, je vais vous dire pourquoi nous avons invité...
Je confirme.
Nous avons invité Rachida Brakni. Bonjour madame.
Bonjour.
Et Fabienne Bab, mes hommages.
Bonjour.
Pour évoquer ici, elles sont ici pour évoquer de sas en sas, un film sans sas. Pas mal comme forme. Pour la reprendre pour la réclame. Mais comme je sais Mais comme je sais que pour pouvoir commencer votre interview, Nagui, vous avez besoin de mon pitch.
Oui,
je l'ai bien dit pour une fois.
Oui, oui, pour une fois.
Je vais vous faire le résumé. Par une brûlante journée de canicule, Nora se prépare avec sa mère, Fatma, à rendre visite à son frère détenu en prison. Sur place, elles rejoignent d'autres femmes venues voir leur mari. Alors que la chaleur se fait de plus en plus étouffante, sous l'œil de Maton apparemment sans cœur et sans entrailles, le groupe, qui ne compte d'ailleurs qu'un seul homme et une seule enfant, ne progresse vers le parloir qu'au prix de haltes interminables, durant lesquelles les tensions familiales, sociales et culturelles vont aller s'exaspérant. Un parcours absurde, un huis clos, j'ai du mal avec mon dentier, un huis clos kafkaïen dans l'envers du monde carcéral.
C'est la chaleur, ça décolle la chaleur.
Un envers, à ma connaissance, jamais évoqué au cinéma, du moins jamais avec autant de justesse et d'humanité.
Waouh!
Ah, des bons piches!
Maréchal.
Des bons piches, j'en ai fait depuis que je suis en CDI à France Inter, mais celui-là, je peux vous dire que c'est du haut de gamme et j'espère qu'il donnera à vos auditeurs l'envie d'aller voir ce très beau film. Parce que, comme vous me le disiez, Nagui, tout à l'heure, de sas en sas, au début, j'ai été déçu parce que je croyais qu'il s'agissait d'une adaptation des SAS, les polars de Gérard de Villiers, qui sont les seuls bouquins que j'ai jamais réussi à finir. À lire jusqu'au bout. Mais finalement, même si dans le film de Rachida Brakni, il n'y a pas de femme à poil et pas de tueur communiste, c'est vraiment de la balle. Quant à moi, si j'ai été tant marqué par ce film, c'est aussi parce qu'il a réveillé des souvenirs douloureux.
Ah bon ?
C'était le 24 février 1954, il y a exactement 63 ans, un vendredi. Nous sommes bien vendredi aujourd'hui.
Oui, absolument, je vous confirme.
Oui, vous mentez là. Je sens que vous mentez.
Non, oui.
Bon. De retour d'Indo, où le cruel général Bobune m'avait retenu captif dans une cage en bambou, où j'accédais de sas en sas, et à travers lesquels les Viettes nous faisaient ramper en nous piquant le cul avec des bambous. Donc, de retour à la Châtre, ma ville natale, comme j'avais le bambou, je n'avais qu'une hâte, retrouver Edmond, mon épouse, qui tenait la quincaillerie de la ville. Hélas, suite à sa condamnation pour un trafic de casseroles et de poils à frire, la ténébreuse affaire dite des poils de la Châtre, elle avait été incarcérée. Ayant décidé de la faire évader, lors d'une visite, j'avais dissimulé une lime. Non dans mon foulard, comme Nawel le fait avec des friandises dans votre film, Rachida, mais ailleurs. Malheureusement, baladé moi aussi, interminablement, de sas en sas, épuisé, oubliant la lime, je finis par m'asseoir de tout mon poids sur le sol. Et depuis ce jour, j'ai du mal à rester assis plus de 3 minutes aussi. Mais je vous laisse en vous souhaitant une bonne émission.
Merci,
voilà.
Maréchal. Merci.
Aujourd'hui. France Inter, le meilleur moment de la bande originale avec Nagui.
Tout ça sans sas, donc c'est votre premier long métrage. Je marque un petit temps parce que je pense que c'est, il faut rajouter quelque chose d'autre. C'est pas juste un premier film. Ça doit être une histoire, ça doit être un bout de vous que vous mettez dans ce long métrage.
Ouais, puisque ça fait des années que j'ai envie de raconter cette histoire.
La gestation a été longue?
La gestation a été très longue et c'est surtout que moi aussi je me suis retrouvée comme ces femmes à aller visiter un proche en prison. Et du coup voilà, ça fait plus de 10 ans que j'ai envie d'en faire un film.
Vous avez donc visité un proche en prison et c'est là où vous êtes rendu compte que la présence féminine des mères, des sœurs était plus dense que les pères, les frères, les copains.
Tout à fait.
Incroyable. Qu'est-ce qui explique ça?
Ouais, c'est ça. Ouais. Mais alors ça, faudrait demander à un sociologue. J'ai pas la réponse.
On n'abandonne pas les pères et les frères. C'est
exact.
Ça, c'est la phrase du film.
Ouais. C'est vrai. Mais,
pourquoi les hommes n'y vont pas?
Mais moi, quand j'y allais, j'avais déjà remarqué ça. Et pour les besoins du film, en y retournant, j'ai vu que 10 ans après, c'était toujours le cas. C'était toujours, je dirais, 70% de femmes pour 30% d'hommes.
Il y a un côté, il y a un sentiment de culpabilité de la part d'une mère qui va visiter son fils en prison.
Mais je sais pas, Nagui, on doit pas être fait du même bois. Non, mais c'est vrai.
Moi,
que...
je ressens pas ça comme de la culpabilité. C'est, elles vont jusqu'au bout, beaucoup plus que les hommes.
Pas, ouais.
Ça me permet un tout petit parallèle. Non, dans le monde,
on peut se dire, parce qu'il y a aussi des répliques dans le film, de dire c'est tu as mal éduqué ton fils pour qu'il se retrouve en prison. C'est cette forme de culpabilité-là. C'est-à-dire qu'on partage sa peine dans tous les sens du terme, y compris en y passant des heures, en y préparant
des gâteaux. Mais ça vaut pas pour les maris. Donc moi, je comprends aussi ce sentiment de culpabilité. Fatma, mais les femmes et les femmes viennent visiter leur mari. Donc
mais c'est pour ça que je dis, je crois qu'on n'est pas fait du même bois. Il n'y a pas longtemps, on a présenté le film au Luxor et à l'issue du film, il y a un homme qui a pris la parole en disant mais qu'il avait fait quelques années de prison et qu'il n'imaginait pas à quel point c'était douloureux et qu'il n'imaginait pas du tout ce que sa femme avait pu faire pour lui. Et il m'a dit, si je dois être honnête jusqu'au bout, je pense que si elle s'était trouvée dans cette situation, je ne sais pas si j'aurais eu la force. De venir la voir.
Je peux me permettre un petit parallèle. Dans le monde du handicap, les handicaps durs, très très souvent, les femmes sont beaucoup plus présentes que les hommes. Souvent, les hommes se tirent. Et ce sont les femmes qui sont au front.
Alors pour continuer dans ce même parallèle, le milieu hospitalier a servi de toile de fond d'ailleurs et de décor pour pouvoir tourner. On n'est pas pu tourner à Fleury-Mérogis ou dans une véritable prison, mais dans les parloirs, les barreaux et les salles dans la salle d'attente dans laquelle vous êtes. Ou je ne sais pas si on peut appeler ça une salle d'attente, mais en tout cas le lieu, le fameux SAS, ouais, il est particulièrement grand celui-là où vous attendez. C'est un ancien hôpital psychiatrique.
Oui, c'est Maison Blanche, c'est un hôpital psychiatrique de femmes désaffectées. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les architectures sont très similaires. Il y a eu des architectes qui ont construit des prisons et des hôpitaux psychiatriques. C'est assez similaire, en fait.
Là aussi, on pourrait continuer de disserter là-dessus et sur ce parallèle. Alors, l'histoire du film, c'est en effet des femmes qui vont rendre visite à leur mari, leur frère, leur père en prison, jusqu'à les rencontrer au parloir. Dit comme ça, ça pourrait être un court-métrage de 2-3 minutes, mais non, ça devient un film parce que c'est un parcours du combattant réel pour passer de l'ouverture des portes, c'est l'attente, c'est la chaleur sur laquelle vous avez voulu vous appuyer aussi. Et
le rituel du linge, la prise de rendez-vous,
la fouille, les casiers,
les toilettes,
les huis clos parce qu'elles finissent par se connaître sans vraiment se connaître, il y a des clans, il y a des paroles, des promesses qui sont ou tenus ou trahis, ce huis clos, cette tension-là est extrêmement forte parce qu'on se dit mais qu'est-ce qui va se passer ? Elles vont se déchiqueter ou au contraire elles vont s'entraider, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Votre envie de pousser à l'extrême là, cette tension et notre attention vient de quoi ? Pourquoi cette canicule ? Vous avez été marqué par celle de 2013 ?
De 2003 ?
De 2003, pardon.
Ouais, j'avais été marquée. Justement, je me trouvais à ce moment-là en prison et à un moment...
En train de visiter ?
Oui, tout à fait.
Oui,
merci de le préciser.
C'est comme ça.
C'est un scoop.
Les réseaux sociaux. Le buzz.
En train de visiter Eric Cantona qui lui était en prison. Voilà, on a créé le buzz et on n'en parle plus. Ça y est, le buzz est fait.
Et voilà, vous me perturbez.
Pardon. Vous étiez en train de visiter en 2003 pendant la canicule.
Tout à fait. Et comme ces filles, on s'est trouvées dans le groupe totalement livrées à nous-mêmes. Les surveillants avaient disparu, donc on avait plus ou moins compris qu'ils étaient en sous-effectif. On ne savait pas ce qui se passait, on ne savait pas si c'était une prise d'otage ou si c'était une tentative d'évasion. Et c'est seulement en sortant de la prison le soir, en allumant la télévision, que j'ai appris que des prisonniers avaient tout simplement mis le feu à leur matelas pour pouvoir...
Ils cassaient des vitres pour pouvoir
respirer, pour manifester leur... eux aussi, le mal-être, enfin, cette pression et cette oppression qu'ils ressentaient avec la canicule.
Ils avaient donc un sentiment d'étouffer et c'était une manière de crier à l'aide.
Oui, et puis d'alerter l'extérieur, de dire, nous aussi, on souffre de la canicule, nous aussi, on... Voilà.
Alors, Fabienne Bab, vous retrouvez au milieu de ces... Il y a une dizaine de personnages, si...
À peu près, ouais.
C'est ça,
ouais,
c'est ça. En comptant le seul homme et l'enfant. Une dizaine de personnages on va dire réels, qui sont dans ce sas. Vous en faites partie. Vous avez l'air, vous, d'être la plus perdue au milieu de toutes ces femmes qui semblent habituées, qui ont notamment la monnaie pour le casier que vous n'avez pas. Et ainsi de suite.
C'est votre première.
Ben moi, c'est la première fois que je viens visiter un proche en prison, et donc je découvre ces lieux. Voilà, je les fais découvrir en même temps aux spectateurs, en quelque sorte.
Ça, ouais.
C'est la première fois que je me retrouve dans cette mini-société comme ça, donc essentiellement composée de femmes. Et je ne sais pas du tout ce qui va se passer.
Et votre personnage est central parce qu'il illustre aussi la mixité, parce que vous êtes très très différente des autres femmes qui sont présentes dans ce sas. Vous êtes déjà physiquement très différente dans votre façon de vous vêtir, dans votre façon de parler. On sent.
Ah bah c'est la plus baisse beige avec son tailleur.
D'une certaine façon.
C'est la blonde.
En plus, je suis une provinciale.
C'est la blonde.
J'arrive de Limoges.
C'est la blonde au milieu des brunes. Et c'est vrai qu'il y a une densité, entre guillemets, de toute origine ethnique, mais on n'a pas beaucoup de blancs dans cette salle, dans ce sas.
Il y a Judith,
moi,
il y a Lola.
Et Lola.
Ouais. Non, mais en proportion.
Ah oui, oui. Ouais.
Et ça fait vraiment de ce lieu aussi, on parle de plein de lieux comme des lieux de mixité sociale. Or, je crois que les prisons sont quand même des lieux où tout le monde peut se retrouver là à visiter un proche. Et je trouve que ça aussi, c'est pas caricatural. Donc c'est fort dans l'idée de montrer ces portraits de femmes qui ne sont pas toutes là pour les mêmes raisons et qui ne viennent pas des mêmes endroits.
Commentaire ?
Ben non, c'est très juste ce que dit Leïla. Moi, c'est comme ça aussi que j'avais envie de construire le film. Je voulais aussi qu'il soit à l'image d'une réalité sociale. Et en effet, c'est encore un des rares lieux où il y a une mixité. Même si évidemment la prison touche les catégories sociales les plus défavorisées en premier lieu. Mais alors là, pour le coup, il y a des explications. Fassin en parle très bien, je trouve, de ces raisons sociologiques. Et je voudrais juste rebondir par rapport à ce qu'a dit Fabienne. C'est vrai que son personnage, il est vraiment central dans le film, dans la mesure où son regard est un peu le regard du spectateur. C'est elle qui nous fait découvrir cette architecture. C'est elle qui nous fait comprendre à quel point les rapports sont très ambigus entre ce groupe de femmes et ce groupe d'hommes que sont donc les surveillants de prison. C'est elle qui nous fait prendre la mesure du temps aussi, de la lourdeur de ce temps qui s'étire, et on a l'impression que c'est un moment qui dure presque 5 heures. Et c'est vrai qu'on mesure pas à quel point, quand on va visiter quelqu'un en prison, par exemple à Fleury, entre le moment où on est devant la porte de la prison et le moment où on a le droit à son parloir, il s'écoule entre 1h30 et 2h30 de temps. C'est interminable.
C'est une éternité.
C'est une éternité.
Et le temps n'est pas le même pour une dame âgée, pour une jeune fille.
Une femme enceinte. Et une petite fille aussi.
Une petite fille qui a ses rêves, qui a son imaginaire, qui elle, à la limite, se met à jouer, peut-être avec les portiques de sécurité, alors qu'on n'est pas là pour jouer.
Non.
Ce qui peut
exaspérer
ne pas laisser. Bah, dans un premier temps, ça dure un tout petit peu, puis on voit bien que c'est pas un papa, ce monsieur, parce que s'il croit qu'une petite fille, une fois qu'elle a compris qu'elle pouvait passer une fois sous le portique, elle va s'arrêter.
C'est un papa, mais qui a mis un costume, qui a mis un uniforme. Et à partir du moment où il met un uniforme, d'ailleurs, on le voit.
Il devient un autre homme.
Ces femmes sont elles aussi prisonnières, ces hommes, ces surveillants sont prisonniers. D'ailleurs, dans la façon de filmer, on se demande de qui est de quel côté des barreaux.
Ouais.
Et donc, c'est un univers carcéral qui ne laisse personne exempt en réalité.
Tout à fait.
Et ce qui est beau avec le personnage de Fabienne Mapp, c'est qu'en effet, c'est le baromètre. Parce que on la croit mesurée dans sa façon d'agir, de réagir et de penser. Si une autre femme du groupe se plaint de la chaleur ou du manque d'eau, on pourrait penser que c'est une forme d'exagération.
Tout à fait.
Et quand cette plainte vient de votre personnage, Fabienne Mapp, justement, il y a une identification qui est sincère. Et on se dit, c'est très dur.
Tout à fait, c'est très
juste. Ah oui, non, il y a effectivement, dès qu'on rentre dans ces sas, on ne sait pas où on va, quoi. En tout cas, Marlène on est dans un autre monde.
On ne sait même pas où est l'entrée, où est la sortie.
Exactement, oui. Et on est, d'ailleurs, de plus en plus dans le film, on est quand même aussi très abandonnés. On n'a pas d'explication. On se sent complètement. On est dans un lieu de déshumanisé, quoi.
Il peut y avoir l'entraide. Il peut y avoir le crépage de chignon. Il peut y avoir le pétage de câble total. Tout est possible.
Tout est possible parce que tout d'un coup, on retrouve des instincts très très primaires, quoi.
Exactement.
On nous transforme un petit peu en animaux.
Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un des rares films justement sur l'envers du décor carcéral. Il y a beaucoup de films sur la prison. Il y en a des très très bons. Je pense Le Trou de Becker, qui est un film admirable. Ça m'a la qualité de votre film m'a fait penser à celui de Becker. C'est un huis clos. C'est très très difficile.
Et c'est reconcentré. Ça, c'est ça.
C'est le maréchal Ganache, c'est pas le Albert Algo. Albert Algo est un homme de goût, le maréchal. Ça marche.
Je vous écoute.
Ce qui m'inquiète.
Ça m'a fait penser. C'est le huis clos. C'est très très dur de faire un huis clos au cinéma. Au théâtre, c'est très très différent. On pourrait parler de théâtralisation, mais pour moi, ça, c'est un très beau film de cinéma.
Parce que ça me touche beaucoup ce que vous dites par rapport au trou, parce que c'est vraiment un de mes films référents. C'est un film que j'aime beaucoup et je me rends compte qu'inconsciemment je m'en suis inspirée notamment par rapport au son parce que il y a pas de
musique pratiquement sauf au début
sauf
pour dans le film de Becker il y a pas de musique
exactement voilà tout à fait
la musique elle est c'est j'allais dire les cœurs qui battent c'est la tension tout à intérieure
fait. Et il y a un parallèle aussi avec le théâtre parce qu'en voyant le film je voyais des scènes comme si on était sur les planches il y a un parallèle fort aussi avec la photographie je trouve que chaque plan pourrait être une photo qu'on pourrait voir exposée à Arles
Choix du cadre et de la lumière, super important.
Et on pourrait penser que ce parallèle avec le théâtre et la photographie ne ferait pas œuvre de cinéma, et pourtant c'est tout le contraire. Donc je trouve que c'est vraiment un tour de force de ce point de vue-là.
Mais en fait, moi je me suis jamais posé la question par rapport au théâtre, dans la mesure où, déjà c'est le sujet qui veut ça. Mmh. C'est un huis clos, unité de lieu, unité de temps, unité d'action. Donc on a vraiment...
Le drame.
Exactement. Mmh. Et puis le huis clos est un genre, on le voit avec le trou, mais Bergman a fait je ne sais combien de films qui ne sont que des huis clos. Donc c'est vraiment le sujet qui propose ça.
Il y a des huis clos qui sont plus dans les codes traditionnels du cinéma, j'entends par là, où on essaye de faire en sorte que même si c'est une unité de lieu, dans la façon dont c'est réalisé, on veut donner une forme de mouvement à tout prix. Or là, vous cherchez pas ça.
Non, parce que le lieu est très pesant et puis elles sont malgré tout enfermées dans une pièce. Il y a quatre murs, c'est un groupe et puis c'était à nous et d'une certaine manière c'était un peu la gageure du film. C'était de trouver la façon de filmer ce groupe de femmes et qui est sans cesse un premier plan, mais il y a aussi un deuxième, un troisième, un quatrième plan parce que quand il se joue quelque chose entre deux femmes. Il y a aussi plein d'autres choses qui sont en jeu en arrière-plan. Mais la photo, oui, ça a été aussi des références pour moi, très importantes.
France Inter, la bande originale, le best-of, avec Nagui.
Mais la musique, justement, la voici avec Le Lac piano-voix, cadeau de Julien Doré sur son album et...
Surprendre la la cime. La rivière est là, font prendre racine. J'ai trompé la mort, la pente est facile. Mais serre-moi encore, que mes anges vacillent. Tes mains sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire. Pourvu que les hommes nous regardent, amoureux de l'ombre et du pire.
Voici l'humeur de Guillermo Gouy.
Non, ouais,
si. En live. Ah oui. En live, c'est du live, hein.
Sérieux?
C'est le vrai, ouais.
Absolument. Bonjour les amis.
Non. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors comme chacun le sait, lundi matin, c'est un jour clé dans le destin de la France, puisqu'on reçoit Astrid Veillon dans la bande originale et qu'il est de
et Isabelle Vitari.
Il était de il est de notoriété publique que Leïla ne peut pas la sentir pour une sombre histoire de je sais pas de cheveux sales, un truc de fille. Enfin, on va rentrer dans les détails. Peu importe. Bon, comment Nagui va gérer cet inéluctable incident, grosse question quand même. Mais l'autre enjeu de ce lundi matin plus modeste, c'est aussi le premier jour à l'Élysée de celle ou celui. Enfin, espérons celui, si je veux pouvoir poursuivre ce billet sans l'aide du service de sécurité de France Inter. Donc, de celui qui aura été élu. Ben oui, parce qu'à un moment ou à l'autre, il va falloir aller taffer pour de vrai, mon cochon. Eh oui, c'est bien beau de sortir pendant un an, les Français veulent ceci, les Français veulent cela, et moi, président, vous aurez de la confiture sur votre tartine, et vos autos seront dégivrées automatiquement, la viande sera toujours bien cuite, et fini les aigres d'œsophage, etc. Très bien. T'as vendu, les gens ont acheté, c'est super. Mais bon, t'es pas l'employé du mois chez Darty, quoi. T'es président de la faune et de la flore de ton pays. Donc, à un moment, une fois que t'as reçu le limoncello du patron dimanche soir, entouré de tes proches, et que tu leur as dit « Oh, je t'aime, c'est pas parce que je suis président, je sais que je suis bourré, mais je te le dirai même si je t'ai pas bourré, je t'aime, putain !» Bah, le lendemain matin, tu te réveilles et t'as réellement un nouveau boulot. Je veux dire, à part ici Daniel Morin qui a été livré avec la maison de la radio, on a tous vécu un premier jour dans un nouveau boulot. En général, t'arrives, tes nouveaux collègues te jugent, mais il y en a un qui est plus cool que les autres. Il vient te faire « Ah, je m'appelle Jean-Paul !» Mais tu peux m'appeler Jean-Paul. Puis il y a un silence crispé. Il y a un silence crispé et il dit j'espère que t'aimes bien la déconne parce qu'ici tu vas être sérieux. Et là tu penses à mourir dans un accident de kitesurf. Mais la DRH arrive et elle te place à ton nouveau poste de travail. Et là forcément t'attends toujours 2 heures que quelqu'un vienne te donner un login. Forcément, ça va forcément arriver à celle où celui, enfin espérons celui, si je veux continuer à pouvoir voler votre pain avec mes billets semi-réussis, ça va forcément arriver à Macron. Son premier jour à l'Élysée, il va arriver vers, je sais pas, à 10h40, quelqu'un va arriver avec une chemise blanche à manches courtes pour lui donner un post-it avec écrit login Emmanuel 123, mot de passe en marche 666. Parce que l'IT manager à l'Élysée est engagé sous Pompidou. Un peu comme à Inter, en fait, d'après ce qu'on m'a dit, c'est toujours le même staff que sous Stéphane Bern. Hein. D'ailleurs, ici, le premier login de Nagui, c'était Nagui 1M45. Il a dû rectifier lui-même. Aujourd'hui, c'est Nagui 1M47. Faut pas le faire chier avec sa taille, Nagui.
Mais bon. Oh non.
Ce matin-là. Je la voyais pas là.
Je l'ai pas vu venir, celle-là.
Ce matin-là, il y aura un flottement, quoi. Il va s'emmerder le temps de recevoir sa nouvelle adresse email et les codes du nucléaire. Je suis sûr qu'il va appeler ses potes pour le dire. Putain, la terrasse est malade ici. On va faire des soirées de dingue. Ça va être le carnage. Trouvez-moi le numéro de Bob Sinclair et tout. Puis on va se faire un compte Tinder. Et quand il aura appelé tous ses potes, là, il va passer au canulaire téléphonique. Genre appeler Angela Merkel. Allô? Non, rien. Elle va raccrocher. Donald! It's the valise of Rachel. Raccrocher. Okay, ça pour passer le temps. C'est vrai, même les grands de ce monde, ils doivent apprendre. C'est vrai au début. Genre le pape, quand il arrive au Vatican pour son premier jour, il fait quoi? C'est pareil, quoi.
Il fait cheminer.
Et oui, il se dit pas directement, je vais relancer Jésus dans le cœur des gens. D'abord, il se demande où se trouvent les gants de toilette, le papier aluminium, etc. C'est genre de trucs, quoi, les trucs de base. Et ben voilà. Après seulement, il convoque les évêques pour aller faire un paintball. Et ben, ce sera pareil avec Macron. Et vivement que ce soit pareil avec lui, puis qu'on puisse passer à autre chose que cette élection. Allez, bonne émission, les amis.
Merci.
France Inter, la bande originale, le best-of.
Tout de suite, quelques années mises en musique dans votre carrière, Mireille Dumas, notamment en 1971, où vous écoutiez...
La Zanana, c'est dans la voix et dans le geste, la Zanana...
Léo Ferré, c'est pas pour rien si on écoute Léo Ferré. D'abord, un, parce que vous nous l'avez conseillé et recommandé comme étant la bande originale de votre vie à ce moment-là. À 18 ans, vous demandez, en étant mineur, puisque 18 ans, on est mineur en 71, votre émancipation.
Tout à fait, tout à fait. Et je l'ai demandé à ma mère, parce qu'à l'époque... On est loin de l'époque Tanguy où on reste chez soi quand on avait passé le bac, on partait faire des études. Moi, je suis partie à Aix-en-Provence.
Ouais, tout de suite, ouais,
tout de suite, ça, tout de suite. Au contraire, c'était de quitter la famille, s'envoler vers les autres, vers l'extérieur. Et je suis arrivée à Aix-en-Provence et 6 enfants, mère institutrice, pas de père, pas beaucoup d'argent. Donc il fallait, moi, j'avais besoin de petits boulots, et j'avais besoin de signer des contrats. Aussi pour le théâtre.
Je ne pouvais pas,
puisque j'étais mineure. Ma mère habitait en région parisienne, enfin à Chartres, à côté de Chartres, dans un petit village. Moi, j'étais complètement dans le sud, donc je lui ai demandé de m'émanciper. C'est pour moi resté un moment très fort, parce qu'on est arrivé devant le juge. Ma mère a tout de suite dit oui, elle avait une confiance formidable dans ses enfants. Elle nous a d'ailleurs tout donné, colonne vertébrale. Elle a fait de nous des citoyens et des citoyennes. Et on est arrivé devant le juge, et le juge, on se souvient toujours, a dit mais alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a volé, elle a... Oui, l'émancipation à l'époque, c'était ça. Et ma mère a dit, mais non.
J'en veux plus, c'est tout.
Tout va bien avec ma fille, elle est étudiante et tout, c'est drôle. Il n'avait jamais vu ça.
Lorsque vous parliez tout à l'heure avec Leïla de Peter Brook en disant, je ne voulais pas être comédienne, je ne me sentais pas à l'aise sur scène, vous vouliez quoi à ce moment-là, à 18 ans?
À 18 ans, qu'est-ce que je voulais? Je voulais aller vers les autres, je voulais...
Être institutrice comme votre maman?
Non, pas du tout.
Du tout.
Je n'avais pas envie de... Non, je ne savais pas. Je sais que j'ai très très tôt, très vite, j'ai eu envie de devenir journaliste. Ce que je suis devenue, ce que je suis depuis l'âge de 20 ans. En fait, très vite. Et puis j'adorais écrire. J'étais pas du tout... On regardait peu la télévision. Moi, je viens de l'écriture. Et très vite, je suis devenue stagiaire au Monde. Et j'ai écrit pour Pierre Vianson-Pontet à l'époque.
En 1986, vous écoutiez Rita Mitsuko. Rita Mitsuko, vous l'écoutiez, et surtout vous avez interviewé, puisque je rappelle que Rita Mitsuko n'est pas le nom de la chanteuse, c'était bien Fred Chichin et Catherine Ringer, et là vous interviewez Catherine Ringer en 86 dans une émission qui portait bien son nom, puisque ça avait systématiquement un rapport à la sexualité, oui. Sexy Folie, ouais. Et où là...
De Pascal Brugnot.
Voilà, hein. Et où là où elle vous confie son passé dans le porno.
Oui, c'est ça. Mais oui. Je me suis retrouvée à faire ces petits entretiens parce que je faisais des documentaires. Donc Pascal Brugnot m'avait dit si tu nous faisais
qui
était la productrice, etc. Hein, je n'étais pas du tout productrice à l'époque, ni je portais ce concept. Mais elle m'avait demandé de faire des petits entretiens sur l'intimité des artistes. Et j'ai interviewé Catherine et ça a été un moment formidable. D'ailleurs, quand je le revois aussi sur le net, ça passe en boucle.
C'est
gênant. Non, c'est pas ça. C'est drôle. À l'époque, moi, j'arrive comme ça, sans maquillage, sans rien, les cheveux, une dégaine absolument pas possible. Je parle avec Catherine, elle était un peu dans le même trip. On s'était vu un peu avant, on s'était rencontré tout. Et à un moment donné, elle me dit des choses, mais absolument invraisemblables, qu'elle adore les gens bossus, elle me cherche, elle me provoque pour que j'arrive à lui dire, mais finalement, vous êtes un peu perverse, Catherine. Et donc, je lui, j'y vais et tout. Elle me dit, ah non, il faut pas, vous ne pouvez pas le dire. Alors, si vous le répétez, je vous gifle. et je le répète, elle se lève et elle m'envoie une gifle. C'est drôle. Ça, ce n'est pas sur le net, mais c'est ça qui était drôle.
Incroyable.
Non, mais c'était, oui, pour c'était rire. Assez... Oui, ah, oui, un peu pour rire. Mais on a continué l'entretien. C'était...
Quand même.
La gifle, c'était à l'époque, hein, vous ne levez pas et elle va gifler.
Est-ce que,
ouais, est-ce que
c'est pas devenu d'habitude. Est-ce que les questions...
Il est dangereux,
Nagui. Oui, il est dangereux.
Les questions, vous... les questions que vous posiez à l'époque pourraient être reposées aujourd'hui.
Mais impossible. Mais impossible, je vous jure. Et puis alors, je me revois interviewant même Jacques Lang et puis des tas de comédiens politiques, etc. sur des questions, mais absolument, non, j'aurais honte aujourd'hui. Mais c'était aussi les années 80, on pouvait, c'était beaucoup plus libre finalement pour cela.
Et qu'est-ce qu'on apprenait à travers ces confidences sur ces personnalités? Quel était aussi le... Est-ce que vous y voyez un rapport, quelque chose qu'on pourrait...
Ça serait beaucoup. C'était un peu léger, c'était ouais. un peu fun. C'était à l'intérieur, c'était des petits modules de 4 minutes à l'intérieur d'une émission. On était beaucoup plus dans le fun que dans l'idée d'apprendre quelque chose de fondamental. Et de temps en temps, il y avait des éclats de vérité. Mm-hmm. Parce que la vérité ne vient que par éclats et par morceaux. Donc, qui étaient comme des diamants, mais pas toujours et rarement.
Justement, finalement. En 1992, là, vous volez de vos propres ailes en tant que journaliste toujours et productrice, donc totalement libre du produit que vous fabriquez et de ce que vous proposez aux téléspectateurs, et c'est le succès en 92 de Ballet Masque. À ce moment-là, vous dites, écoutez... C'est votre côté italien, ça?
Ah ouais, ça c'est ma mère, ça m'émeut aux larmes. Hein? C'est une chaîne désormais. C'est sur l'amour qu'il y a jamais les êtres.
C'est
une chaîne qui se dissout dans le...
La pêche.
Ça va, ça va. Elle est belle, Caruso, ouais. Chanté par Pavarotti, c'est magnifique.
Vous avez été l'une des premières, parce qu'il n'y a pas de classement d'arrivée à savoir qui a été la première à faire des interviews dans la confession. On parlait tout à l'heure de Denise Glaser qui avait ses émissions. Il y avait beaucoup d'émissions à la radio, y compris d'ailleurs une animatrice sur Inter qui vous a influencé, c'était Anne Gaillard.
Tout à fait.
Vous l'écoutiez sur...
Mais parce que j'ai vu certains documentaires d'Anne Gaillard qui pourtant n'a rien à voir avec moi. Elle était
plutôt sur la consommation que sur le...
Voilà,
la vie intime,
mais elle a fait quelques documentaires absolument extraordinaires. Et voilà, et je regardais. Et en même temps, je me disais, je me souviens, elle fait un documentaire sur la transsexualité. C'est l'une des premières qui a fait ça. Je regardais ce documentaire et je me disais, c'est formidable ce qui se dit à cette époque-là. Et en même temps, j'avais envie... C'est là où je me suis dit, vraiment, j'ai envie de faire ce métier. J'avais envie, à un moment donné, d'être à sa place, d'interviewer. C'est tout. C'est aussi simple que ça.
Et comment on se décide, avec en plus ce titre, Ballet Masque, de faire de la vérité ou de ce qui est caché, de l'intime, un spectacle, et de le montrer au grand jour, avec le risque, évidemment, que ça pose des problèmes aux personnes qui se sont confiées.
Les masques,
c'est une vraie responsabilité.
Oui, c'est une vraie responsabilité. C'était un petit peu passé au-delà des apparences. Début des années 90, dans les années 80, la télévision, elle est quand même un petit peu, sont des... entre guillemets, c'est plutôt la bourgeoisie qui s'exprime, les gens qui ont les mots, enfin c'est plus facile, voilà, et ceux qui
vivent... Il n'y a pas beaucoup de testimonies, des émissions testimoniales.
Pas du tout, la fracture sociale est en marche, on était bien avant Chirac, nous, qui en a parlé, mais en 91, 92, les premiers à en parler, à aller chercher ceux qui, justement, qui étaient derrière les fenêtres, derrière les portes, qui souffrent en silence, qui vivaient des situations de marginalité graves, ou qui peuvent arriver à chacun d'entre nous, hein, si vous êtes viré, si tout à coup vous divorcez et tout, vous pouvez aussi partir.
Tout ce que vous dites est toujours actuel.
Mais oui.
Mais alors, pourquoi ça ne se fait plus, ces émissions-là?
Je ne sais pas. Le testimonial a vraiment...
Ça se fait.
La télé-réalité a remplacé le testimonial. C'est-à-dire qu'on est passé à une autre manière de...
Non, puis il y en a un petit peu l'après-midi. Mais c'est, voilà, ouais. C'est plus l'après-midi. C'est-à-dire que... Oui.
Si, il y a des émissions sur France 2 l'après-midi.
L'après-midi, oui.
Voilà, l'après-midi. Donc l'après-midi, après, c'est un certain rythme aussi de diffusion, ouais. Qui fait qu'on accumule un certain nombre de témoignages et que c'est devenu une forme de... voilà, de oui, programmes
oui, là,
comme ça.
Oui, l'idée, c'était plus de mettre voilà. en perspective...
Il y avait quand même une élégance, pardon, dans Ballet Masque qui a été ternie par C'est mon choix, par exemple.
Ah oui, c'était une
espèce de foire d'empoigne.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, la télé-réalité, nous, on faisait... Voilà, ces émissions, c'est des témoignages pour mettre en perspective des vies, et surtout un problème. Des spécialistes étaient là. C'était pas simplement de la confession, c'était aussi du débat. Il y avait des rencontres, on échangeait. Pareil pour vie privée, vie publique. C'était de l'échange. Donc, c'était une mise en perspective. On cherchait pas le spectaculaire. C'était pas l'arme à tout prix. On cherchait le sens.
Alors, pourquoi ces émissions se sont arrêtées? Et parce qu'il y avait moins de personnes enclins à venir raconter des choses sur leur vie privée, parce que le...
Pas du tout.
Vous en aviez marre. Les
chaînes moi, vous me parlez. C'est la question à moi ou en général?
En général, pourquoi cette émission, ces émissions n'existent
plus? Moi, j'ai trouvé, enfin, si vous voulez mon avis, je trouve que ce genre d'émission, en tout cas de témoignages avec le débat, en prenant un problème, il y a eu aussi la marche du siècle, enfin toutes ces émissions-là, vie privée, vie publique, ce genre d'émission, pour moi, manque atrocement aujourd'hui sur les chaînes de télévision. Et je trouve qu'on en aurait grand besoin au moment où justement il y a tellement de problèmes de société. Je trouve que ça manque. Non pas, moi je suis très bien dans le documentaire, j'adore ce que je fais, donc c'est pas, je ne plaide pas du tout pour moi, bien au contraire. Mais je trouve que ça, effectivement,
mais
ça,
si on veut,
ça manque.
Si on vous le propose, vous accepteriez?
Non, pas du tout. C'est pas évident.
Ah
c'est
bon
pas évident du tout parce que ça fait maintenant 6 ans que je suis revenue au documentaire, que j'adore.
Vous êtes revenue à vos amours, mais.
À mes premières amours, à la réalisation.
À vous entendre parler de ces entretiens.
Oui, mais je.
Ceci dit, il y en a dans vos
documentaires. Je mène des entretiens, c'est voilà. Ce que j'allais vous dire. Or, il m'arrive de temps en temps, il se passe quelque chose, je me dis, ah là, j'aimerais bien voilà, pouvoir intervenir, mais c'est très rare.
Mais vous êtes auto-alimenté d'ailleurs dans votre documentaire en prenant des extraits d'interviews que vous aviez faites de Michel Delpech.
C'est vrai.
J'ai dit une bêtise?
Non, c'est vrai, parce qu'il y en a. Je suis pas à l'antenne, si.
Non,
si.
Vous n'êtes pas à l'antenne.
Non, vous voyez
mais,
pas.
Mais on comprend que c'est.
Voilà, oui, parce que je l'ai reçu plusieurs fois.
À vous
et
que
c'est vrai que je l'ai reçu à un moment, d'ailleurs, très important de sa vie, où il parle de sa conversion et de sa déprime et tout. Et c'est une interview qu'on n'a jamais revue. Donc je me suis autorisée.
Totalement raison. Voilà.
Et à quand l'émission d'interview de Mireille Dumas par Mireille Dumas?
Voilà, c'est. Ce serait pas mal, hein.
Oui.
C'est vous, peut-être, qui allez le faire.
Oh non, Donc, Jean-David Nasio,
Jean-David.
Psychiatre et psychanalyste, l'auteur de plusieurs ouvrages comme « Oui, la psychanalyse guérit »,« Aux limites du transfert »,« Art et psychanalyse » ou encore « Mon corps et ses images ».
Waouh,
n'arrêtez pas.
On vous a demandé
de venir parce que, l'avis et l'opinion d'un psy par rapport au travail réalisé par Mireille Dumas, non pas pour juger son travail, mais en tout cas ce qu'elle met en exergue dans ce documentaire sur notamment cet appétit à la notoriété, cette course à la célébrité et finalement cette blessure causée par la célébrité dans les carrières de ces trois artistes que sont Nino Ferrer, Michel Polnareff et Michel Delpech. D'abord, quel est le moteur pour devenir célèbre?
Alors, attendez, avant.
J'attends.
Avant. Je voudrais dire, c'est merveilleux parce que c'est grâce à cette émission que je comprends que Mireille Dumas est un psy. C'est un psy qui, depuis toujours, elle cherche l'intimité des gens.
Mais vous débarquez ou quoi? Ça fait
d'abord. Oh,
on est au courant quand même.
Voilà. C'est-à-dire, non.
Mais elle fait pas payer la consultation.
Pour le psy que je suis, c'est finalement le fil rouge, c'est ça. C'est abat les masques, vie privée, vie publique, etc. Donc, on devrait aussi se demander sur la célébrité de Mireille Dumas.
Je rappelle que abat les masques, c'était une pétition contre la compagnie créole qui n'a rien à voir avec. T'es calé catane, c'est autre chose. C'était autre chose.
Voilà, ce mépris pour nos amis créoles. Stigmatisation du zouk, bravo.
Pour en revenir à la notoriété, quel est le moteur dans tout être humain qui se dit justement, tiens, je vais monter sur scène, je vais me produire. Mireille Dumas tout à l'heure disait qu'elle n'avait pas envie d'être comédienne, qu'elle se sentait pas à l'aise sur scène ou face à des caméras, et pourtant ces artistes voulaient non seulement monter sur scène, en ont profité, sont tombés peut-être dans les pièges de la célébrité et ont été détruits par cette célébrité.
En général, d'abord, je voudrais vous dire, on ne cherche pas la célébrité, on la trouve. Non.
Oh, quand même.
Non. Souvent.
Aujourd'hui, pardon. Ceux qui veulent absolument être dans la télé-réalité, ils veulent juste passer à la télé. On ne sait pas pourquoi. Ils veulent passer à la télé.
Non. Si. Pour les gens dont on parle, par exemple, que ce film, il est merveilleux.
Paul Naref,
que ce soit voilà. Oui. Et dans le film, on le voit très bien. C'est-à-dire que, et d'abord, il faut bien comprendre, la célébrité vient à nous parce qu'on a envie de faire. Et Paul Naref, quand il raconte avec cette tête d'ange, comment il écrit les poèmes, parce que ce sont des poèmes, et comment il prépare la musique, ce qui l'intéresse, c'est ça. Eh bien, la célébrité vient avec ça.
Parce que c'est un artiste.
Exactement. Et c'est intéressant que les jeunes qui nous écoutent sachent, jeunes et moins jeunes, c'est pas la célébrité, on ne cherche pas la... beaucoup de
fois. Il y a une phrase quand même qui est dite dans le documentaire de Mireille Dumas, c'est Nino Ferrer qui explique justement que la pression de la célébrité et du système et du monde de la musique et des obligations d'être en concert et des représentations et d'avoir du succès était en train de l'attaquer et de l'abîmer. Et que la peinture, qui est un autre art auquel il se consacrait, était justement sans ce genre de jugement, sans cette machine infernale, et que c'était pas lui qui était le premier en face, c'était l'étoile.
Mais par exemple, Ferrer avait dit, il était un musicien de jazz.
Ferrer,
pardon.
Léo Ferrer.
Oui, c'est ça.
Non, ça c'est son cousin.
Ferrer. Et que il s'est aperçu qu'il pouvait donner des mots à la musique. Mais enfin, ce que je voudrais dire, c'est, en pensant à l'émission, il y a trois temps dans la célébrité. Le premier temps, je suis surpris. Je suis déconcerté de voir que ce qui me plaît à beaucoup de monde.
La reconnaissance.
Oui. D'accord. Mais ce n'est pas la reconnaissance, c'est que j'ai fait quelque chose et du coup, je découvre que ça plaît à tout le monde.
Ça, c'est la première étape. Deuxième étape.
Deuxième étape. La célébrité, il faut la gérer, monsieur Nagui.
Il gère rien du tout.
C'est pas facile. C'est pas facile. C'est-à-dire qu'il faut toujours se renouveler.
T'as compris?
Il faut toujours.
T'as compris l'Égyptien? Tu vas te renouveler un petit peu. Il est infernal, hein, mais continue à lui parler sur le
sujet. Non, mais il faut toujours.
Ne me montrez pas du doigt, c'est très menaçant, monsieur.
Il faut toujours trouver du nouveau.
D'accord.
Il faut toujours trouver quelque chose qui nous maintient.
Et la troisième étape.
Dans la deuxième, il y a un problème, c'est que ça va se installer une affaire. Il faut le gérer. L'argent, les collaborateurs,
ça devient important.
Et la troisième, c'est ça qui commence la chute. C'est-à-dire que dans la deuxième, avant que je n'oublie pas, dans la deuxième, il y a une chose très importante, c'est que ça devient angoissant. Parce qu'il faut se renouveler, il faut inventer.
Il faut être à la hauteur.
Il faut être à la hauteur.
C'est Michel Delpech dans vos documentaires qui dit et qui reconnaît ne pas pouvoir rester 5 minutes seul.
Voilà. Seul, oui.
C'est incroyable d'entendre cette phrase.
C'est très
j'en ai marre d'être avec des idiots.
Vous voulez
pas me produire.
Dis donc.
Oui, non, je parle pas toi, je suis pas une idiote, j'ai dit idiot.
Oui, enfin bon, c'est collectif.
Non, tu n'y étais pas.
Ce que je voulais dire, monsieur Nazio, c'est qu'il y a une différence, effectivement, je pense que c'est ce que vous voulez signifier. Nagui, entre la notoriété pour un artiste et le lambda qui veut être célèbre pour être célèbre et qui fait n'importe quoi.
Voilà.
Donc c'est une différence de notoriété. On l'a déjà fait.
Alors parlons maintenant que des artistes et de ceux qui sont reconnus comme étant des étoiles, comme étant des stars et avec un talent. Est-ce qu'il est possible pour eux de vivre une reconnaissance de notoriété et être heureuse, être épanouie, avoir une famille, ne pas aller de lit en lit ou de produit interdit en produit interdit.
Sûr. Non mais c'est ça qui rend heureux. Bien sûr.
Mais sinon, ça sert à quoi d'être célèbre?
France Inter, les meilleurs moments de la bande originale avec Nagui.
Dans cette bande originale, il nous offre une reprise, en l'occurrence la reprise de Amoureuse, la chanson de Véronique Sanson, interprétée par Julien Doré. Sommeil
Je ne veux pas qu'arrive le soleil. Quand je prends sa tête entre mes mains, je vous jure que j'ai du chagrin. Je me demande si cet amour aura un lendemain quand je suis loin de lui. Oh, je suis loin de lui. Je n'ai plus vraiment toute ma tête et je ne suis plus d'ici. Oh, je ne suis plus d'ici. Je ressens la pluie d'autres planètes, d'une autre planète. Quand il me serre tout contre lui, quand je sens que j'entre dans sa vie, je prie pour que le destin m'en sorte. Je prie pour que le diable m'emporte. Ah. Et l'angoisse me montre son visage. Elle me force à parler son langage. Quand je prends sa tête entre mes mains, je vous jure que j'ai du chagrin. Et je me demande si cet amour aura un lendemain quand je suis loin de lui. Oh, je suis loin de lui. Je n'ai plus vraiment toute ma tête et je ne suis plus d'ici. Oh, je ne suis plus d'ici. Je ressens la pluie d'autres planètes, d'une autre planète.
La bande originale, le best-of sur France Inter.
Après le talent d'Oliver Twist et de Ladislas Chola, voici malheureusement l'inverse, c'est-à-dire Daniel Morin.
Ah oui.
Hey. Va-t-il finir l'année ?
Moi aussi, je vous aime.
Ah, c'est le feuilleton.
En France, il existe un endroit où tout est merveilleux. Un endroit à part. Perdu dans le 16e arrondissement de Paris, une maison ronde, pleine de vie, de joie, mais aussi de douleur, de jalousie, de bassesse et de grandeur. Bref, il s'y passe toujours quelque chose de fort. Quand pour toi une journée est super, sache que c'est une journée ordinaire à France Inter. Une saga quotidienne avec l'incontrôlable André Manoukian, le névrosé Augustin Trapenard, Nagui, le magnifique, Laura Adler, la mystique, mais aussi Laurence, la directrice qu'on dirait qu'elle prend de la drogue, Mathieu, le grand patron le plus beau du monde, et bien sûr tous les people qui hantent les couloirs de la radio. Bienvenue dans une journée ordinaire à France Inter. C'est parti. Aujourd'hui, tout est calme à France Inter. Enfin,
en apparence.
Aujourd'hui, veille de week-end de Noël, toute la grille de France Inter baigne dans l'esprit de la nativité. Une volonté de Laurence, la directrice épileptique de la station, qui, en ce 23 décembre au matin, fait son petit topo. Bon, ce week-end, c'est Noël, c'est la dinde, c'est le sapin, c'est la magie de Noël, c'est Disney, c'est dégueulasse. C'est dégueu, mais c'est vendeur. Alors, je sais que parmi vous, certains vont faire leur bobo de gauche en refusant de jouer le jeu. Et à tout cela, je dis ta gueule. Allez, je compte sur vous pour jouer le jeu, et surtout si vous voulez faire partie de la prochaine grille de rentrée. Toujours prêt à faire mieux que les autres, Augustin Trapenard, le leader de Boomerang, l'émission que quand elle s'arrête, elle revient. Invité du lourd. Aujourd'hui, il reçoit les reines du traîneau du Père Noël. Bien. Au début, tout va bien. Augustin parle de l'esprit de Noël, de la joie partagée, du bonheur d'apporter de la félicité. Mais quand Augustin commence à parler à ses invités de la pollution de la couche d'ozone à cause de leur paix, les reines n'ont plus envie de jouer le jeu et quittent le studio en ayant déféqué sur ce pauvre Augustin. Ailleurs dans la radio, Nagui s'apprête à recevoir un vrai VIP, le VIP de la fête. Il accueille dans la bande originale le Père Noël en personne. Aujourd'hui dans la bande originale de la superstar, la star du réveillon. Il ressemble au Captain Igloo mais sans moins le poisson et s'habille en rouge comme un Romanov, mais il est plus drôle. Pour le Père Noël, faites du bruit. Tout se passe bien, sauf quand au bout de la 15e question, le Père Noël continue de répondre en faisant juste « oh, oh, oh ». Ça agace Nagui, qui profite de la vulnérabilité du vieillard, le tabasse copieusement, le laissant inanimé sous le piano de Richard Lornac. De son côté, André Manoukian a frappé fort. Il a réussi à inviter un groupe de lutins. Tout se passe à merveille, sauf quand André pose la question qui fâche. Il leur demande « Alors les gars, en vrai, elle est bonne Blanche-Neige ?» Fou de rage que Dédé les ait pris pour des nains, les lutins lui sautent dessus et lui pètent la gueule. Dans son style incomparable, Laura Adler a prévu une heure bleue thématisée Noël, elle aussi. Ça donne une émission originale et engagée à la fois. Bonsoir et bienvenue dans l'heure bleue. Ce soir, veille de Noël, je reçois une bûche. Bonsoir la bûche. Vous savez quoi, je respecte votre silence, un silence que je comprends comme un cri de révolte contre vos conditions de confinement dans des chambres froides, sans armes et parfois sans respect de la chaîne du froid. Par solidarité avec votre combat mutique, nous allons passer le reste de cette émission dans le silence.
Bien.
Toujours avec un coup d'avance, Nicolas Demorand prépare un spot promo du Téléphone Sonne pour le 26 décembre. Aujourd'hui 26 décembre à 19h15 et pendant toute la nuit, un Téléphone Sonne spécial cadeau de merde. Votre Noël a été à chier, vous avez reçu un cadeau qui ne vous correspond pas, un cadeau que vous avez déjà, un cadeau d'une valeur ridicule, bref, vous n'en voulez pas, appelez-nous, nous trouverons un acheteur. Mon Dieu, quelle radio magique. Invité de prestige, débat contradictoire, magie de Noël, tous les ingrédients étaient réunis. Bref, aujourd'hui encore à France Inter, le génie était au rendez-vous. Que du bon, de l'excellent, et tout ça avec un thème imposé. Alors oui, je sais, c'est dingue, ça paraît inouï et même extraordinaire, et pourtant tout ça, c'est juste une journée ordinaire.
À France Inter. Merci Daniel Laurent.
France Inter, la bande originale, le best-of. Avec Nagui.
Des excuses merci à présenter Daniel Morin.
Ben désolé déjà pour Jean-François Copé, François Asselineau, François Ier, qui n'ont pas été cités par François dans son hommage originel. Ça y est les gars, le mal est réparé, ne me remerciez pas. Désolé pour Charles Aznavour, qui, même mort, n'a pas eu l'honneur de faire partie de cet hommage rendu par Mireille Dumas. Chienne de vie, rest in peace, Charles. Désolé pour ma femme, Hélène Chérie, ma passion pour Michel Delpech et Nino Ferrer va me pousser à tester ce sentiment de liberté, de partage, de sexe à plusieurs. Mais je te rassure, pas avec Bardot, elle est déjà prise, elle est avec Nagui.
Alors, plutôt.
Punaise, c'est son surnom.
Oui, exactement, oui. Un petit nom.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Dans la BO de votre été, voici Dop Lemon avec Home Soon. Won't you come home soon?
heart low. Lost in that old world. You're the only one I'll ever fall. So won't you come home some? Won't you come home some? Won't you come home some? Won't you come home some?
C'était Dub Lemon dans la bande originale de votre été. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve lundi avec toute la bande et on vous souhaite évidemment un bon week-end.